Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Le vœu que je voudrais faire pour vous, c'est que je souhaite que revienne le temps où nous pourrons tous nous embrasser, où vous pourrez embrasser ceux que vous aimez, que nous puissions tous embrasser tous ceux que nous aimons sans avoir peur, parce que c'est vraiment un des éléments les plus terribles, je trouve, de cette année, de ne plus pouvoir se toucher, ne plus pouvoir embrasser ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Voilà, c'est quelque chose qui est très difficile et surtout, je me dis que notre foi, qui est une foi des corps, une foi du corps, une foi du toucher, et jusque dans le mariage où l'union des cœurs passe par l'union des corps, eh bien, je souhaite que jamais nous ne perdions la dimension sacrée de nos corps, hein, de tous les corps, qui sont des témoins de la réalité de la création, de ces corps qui sont témoins de l'amour tout-puissant qui donne vie et qui leur donne vie à ces corps. Voilà, mais alors je n'avais pas prévu de vous parler de cela aujourd'hui, bien que finalement la fête de la nativité, la fête de Noël, soit la fête des corps, puisque à Noël, le Verbe a pris chair. C'est-à-dire que l'infini divin rencontre la petitesse humaine dans ce qu'elle a de plus réel, de plus charnel, et elle donne cet infini divin, il donne à cette petitesse une valeur infinie. Voilà, Noël, c'est pour nous, finalement, le rappel que rien de ce qui fait partie de nos vies n'est étranger au Seigneur. Il faut en être sûr. Rien de ce qui nous concerne, nous, dans nos corps, dans nos vies, n'est étranger au Seigneur, comme bien sûr rien du mariage n'est étranger au Seigneur, lui qui a grandi dans une famille protégée et entourée par ce couple extraordinaire qu'est le couple de Marie et Joseph. Voilà, donc ce sont mes voeux pour vous avant d'aborder avec vous le sujet. Pour aujourd'hui, je souhaite vous parler de la liberté. Alors, nous en avons depuis le temps que je viens vous rencontrer sur Radio Mariage. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, je voulais en parler peut-être de façon encore un petit peu différente, puisque on peut toujours évoquer ce sujet de différentes façons. Parce que la liberté, en fait, est la première exigence du mariage. Hein. Lorsqu'il y a un mariage à l'église, la première question qui est posée aux fiancés, c'est celle de la liberté, vous vous engagez librement et sans contrainte. Et alors, pourquoi est-ce que je souhaite vous en parler? Parce que dans les évangiles, et c'est un. Voilà, ce verset m'a sauté au cœur, je dirais plus qu'aux yeux. Chez Saint Jean, la liberté est finalement intimement liée à la vérité. Au chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, nous voyons Jésus qui dit à ses disciples, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, ce verset m'a vraiment particulièrement interpellée et c'est pour cette raison que je voulais l'évoquer avec vous. Lorsque l'on lit ce verset, on voit que le texte finalement déploie une démonstration. Hein, tout d'abord, il s'agit de la parole du Seigneur, hein, la parole du Christ, si vous demeurez fidèles à ma parole. Et cette parole est le premier élément que je voudrais évoquer avec vous, puisque je l'ai déjà dit au cours de nos rencontres, la parole du Seigneur, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un ensemble de principes de vie, ce ne sont pas des normes morales, ce n'est pas tout ça, même si ça l'englobe. Non, ce qui est le plus important et ce qui est essentiel, c'est que la parole, avec un grand P, avec un P majuscule, eh bien, c'est la présence du Seigneur lui-même lorsque cette parole est proclamée. Cette parole, de plus, elle a une puissance d'action qui est unique. Si vous vous rappelez bien, dimanche, nous avons entendu, dans la lecture du livre du prophète Isaïe, nous avons entendu dire que cette parole, elle est agissante et le prophète nous dit, Dieu nous dit par la voix du prophète que la parole ne revient pas vers Dieu sans avoir fait son action, sans avoir agi. Cette parole, et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli sa mission. Donc là, le premier élément qui est important, c'est de s'ancrer dans cette parole. C'est donc la parole de Dieu qui est le socle sur lequel nous nous appuyons, nous pouvons nous appuyer et nous allons le faire aujourd'hui pour réfléchir ce qu'est pour nous la liberté. Alors vous aurez compris que nous sommes bien loin de ce que certains aujourd'hui appellent la liberté. Hein. Souvent on pense que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, que la liberté consiste juste à choisir ce que l'on aime, ce que l'on veut. Et nous voyons que dans le texte que je vous ai lu, eh bien la liberté, elle est portée d'un côté par la parole et de l'autre côté par la vérité. On voit que la liberté, elle est totalement imbriquée dans la parole de Dieu et dans la vérité. Alors, le texte continue sa démonstration et nous dit que finalement, cette parole de Dieu, eh bien, elle est le lieu même de la vérité, puisqu'elle est le lieu de la présence de Dieu lui-même. Et lorsque l'on lit le texte, on voit bien que Jésus relie lui-même la vérité à la liberté. Par-delà cette affirmation, ce qui nous est dit dans ce texte et ce qui est affirmé, c'est qu'il ne peut y avoir de liberté vraie sans vérité. Et que la vérité, ce n'est pas quelque chose de fluctuant, mais on dit que c'est quelque chose qui est objectif. Nous allons dire que nous savons que la vérité est objective, car puisqu'elle nous est donnée par la parole de Dieu. Alors, bien évidemment, beaucoup de la philosophie s'est emparée de ces termes de la liberté et de la vérité, qui sont des termes essentiels dans la réflexion de la philosophie, mais et qui le déploient d'une façon un petit peu différente de la nôtre, de la mienne aujourd'hui. Et nous voyons aussi que notre société, elle est influencée aussi par l'idée que chacun porte sa vérité, que chacun porte sa part de vérité, qu'elle n'est pas la même pour tous et que, ma foi, chacun a une vérité qui est différente de celle des autres. C'est une affirmation qui, à mon sens, est un petit peu étrange et si l'on y réfléchit bien, elle est un petit peu dangereuse parce que comment est-ce que l'on peut parler avec quelqu'un qui n'a pas la même conception de ce qui est vrai et de ce qui est faux? Parce que pour pousser un peu et en exagérant, je pourrais dire qu'à ce moment-là, deux personnes pourraient s'opposer sur la définition de ce qu'est la couleur du bleu. Ma vérité du bleu, eh bien, c'est celle-là. L'autre dira, bien non, ma vérité du bleu, c'est une autre. Et donc, nous ne pourrons pas. Deux personnes qui auraient cette disposition, cette idée de la vérité ne pourraient pas communiquer, ne pourraient plus parler. Quand je prends l'exemple de la couleur, ne pourraient plus parler du bleu, ne pourraient pas dire c'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la mer, puisque pour chacun, le bleu serait, le verrait comme une couleur différente. Et vous voyez, on a des situations parfois qui sont un petit peu étonnantes, on le voit parfois dans certaines émissions, on a vu des hommes disant qu'ils ne sont pas des hommes, des femmes disant qu'elles ne sont pas des femmes, des hommes ou des femmes disant ben non, je suis ni l'un ni l'autre, je suis autre chose. Voilà, donc ces personnes finalement pensent acquérir une liberté, mais finalement elles se font du mal parce que lorsque l'on n'est pas capable de dire ce que l'on est, lorsque l'on dit que l'on n'est rien, ni l'un ni l'autre, eh bien, ça devient très difficile de communiquer réellement avec les autres. Ça devient très difficile parce que pour communiquer avec quelqu'un, il faut que cette personne reconnaisse ce qu'elle est. Il faut qu'elle reconnaisse la vérité de son être le plus profond. Cela me fait penser à un auteur de théâtre célèbre qui se nomme Pirandello et qui a écrit une très belle pièce de théâtre qui s'appelle À chacun sa vérité et qui est d'une certaine façon la démonstration. Je vous invite à la lire parce que c'est vraiment une pièce de théâtre qui est très belle. Finalement, il fait la démonstration que s'il y a des vérités différentes, eh bien ces vérités différentes, elles ne peuvent que conduire les hommes à ce que l'on pourrait appeler une impasse mortifère, une impossibilité de se comprendre, chacun sa vérité, donc plus personne ne peut communiquer. Il est vrai, bien évidemment, que chacun d'entre nous voit le monde avec des yeux qui sont uniques. Je veux dire par là que chacun d'entre nous porte en lui des émotions qui ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas émus par les mêmes films, nous ne sommes pas émus par les mêmes textes, nous ne sommes pas émus par les mêmes œuvres d'art, nous n'avons pas la même opinion sur tout, bien évidemment. Mais là où la vérité reste, c'est que nous avons quelque chose en commun qui dépasse tout ce que nous pouvons ressentir, ce que nous pouvons percevoir, et ce que nous avons en commun, c'est cette vérité ultime de notre être qui est d'être fait à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, et voilà où est le cœur de notre vérité. Nous sommes tous des créatures faites à l'image de Dieu. Voilà ce que nous dit le Seigneur comme parole de Dieu faite chair. Il nous dit que nous sommes à son image et que donc, puisque nous sommes à son image, nous sommes capables d'accéder, de comprendre la vérité sur nous-mêmes. Nous sommes capables de comprendre ce que nous sommes. La vérité sur nous-mêmes, c'est que nous sommes créatures de Dieu. Nous sommes faits, nous, pour aimer comme Dieu nous aime. Et c'est cette vérité de notre être qui dépasse tout le reste. C'est cette vérité-là qui englobe et dépasse tout le reste. Mais cette vérité sur nous-mêmes que nous percevons, elle implique dans le même temps que nous devons répondre à cette vérité qui est cette exigence en nous reconnaissant nous-mêmes comme créatures de Dieu et cette vérité. Donc il ne s'agit pas que cette vérité elle reste extérieure à nous, il faut que nous l'acceptions et que nous la portions au plus profond de nous-mêmes. Et il me semble qu'une une façon de le comprendre, c'est de suivre l'apôtre Paul, Saint Paul, lorsqu'il nous dit dans les textes que nous connaissons bien, car nous les entendons souvent, Saint Paul nous dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Et voilà notre vérité absolue que nous devons reconnaître. Nous sommes temple de l'Esprit. Nous sommes une part du corps du Christ. Vous voyez, tout ça, cela doit évoquer pour vous des prières, des textes, des paroles. Vous êtes le corps du Christ. Toutes ces invocations que nous entendons lorsque nous assistons à la messe. Voilà, tout ceci fait partie de notre vérité profonde. Nous sommes part du corps du Christ. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Par ce baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, hein, comme le dit la liturgie du baptême. Voilà, toutes ces affirmations que nous trouvons dans les Écritures, chez Saint Paul, dans la liturgie, nous confirment cette vérité sur notre réalité. Et cette vérité sur notre réalité, elle nous permet de poser sur nous-mêmes un regard nouveau ou renouvelé. Et cette vérité qui nous permet de poser sur nous-mêmes un regard nouveau, elle nous permet aussi de poser un regard de vérité sur les autres, sans les emprisonner dans leur apparence, dans leurs manques, dans leurs défauts, parce que ce qui est plus grand que tout le reste, eh bien, c'est cette conviction, cette affirmation, cette vérité absolue de ce que nous sommes, le temple de l'Esprit, nous sommes, nous aussi, le corps de Christ. Voilà donc pourquoi il est important de réfléchir sur cette vérité ancrée dans la parole du Christ lui-même, parce que cette vérité, elle nous fait avancer dans la compréhension de nous-mêmes, vérité sur nous-mêmes, vérité sur les autres. Et voilà quel est le chemin que nous indique le Christ pour que nous soyons libres et que notre liberté soit à l'image de la sienne. En effet, si nous avançons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, nous pouvons lire cette autre affirmation de Jésus qui est aussi un verset qui est très souvent repris, hein, lorsque Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Lorsque le Christ affirme cela, il est sur le point de vivre sa passion. C'est une affirmation qui est fondamentale. Il nous dit, suite à ce que nous avons vu avant, « Si vous suivez ma parole, vous êtes mes disciples ». Le Christ nous invite à entrer réellement dans cette union avec sa parole qui est le chemin, qui est le chemin qui nous guide vers la vérité et la vérité qui nous guide vers la vie. Voilà comment est-ce que nous pouvons comprendre cette affirmation de ce que la vérité rend libre. Cette vérité, c'est le Christ lui-même. Et c'est lui qui va nous libérer de l'esclavage le plus terrible qui soit, qui est celui du péché. C'est encore ce que va nous dire Saint Paul, lorsque Saint Paul nous dit encore que nous qui étions esclaves du péché et de la mort, nous sommes libérés de cet esclavage du péché et de la mort par le Christ. Ainsi, nous voyons comment, vous voyez, le texte finalement porte en lui une évidence qui est que par la vérité du Christ, qui est vérité lui-même, eh bien, nous accédons, nous sommes libérés du péché, nous accédons à la liberté. Le Christ nous rend donc à notre véritable liberté, et par le Christ, le péché ne peut plus nous garder en esclavage. Vous voyez, cette méditation sur la vérité profondément liée à la liberté, elle me paraît essentielle parce que lorsque l'on parle de la liberté sans aucun rapport avec la vérité, eh bien, l'on risque de s'engager sur des impasses. La vérité, elle est celle-là. La vérité, c'est que nous sommes des créatures de Dieu, faites pour vivre de la vie de Dieu. Nous sommes des créatures faites pour aimer et pour aimer comme Dieu nous aime. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier parce que cette vérité sur nous-mêmes, elle nous permet de poser un regard de vérité sur les autres. Et ce regard de vérité sur les autres pour les voir comme ce qu'ils sont profondément, eh bien, nous permet d'entrer dans une réelle et une véritable liberté. Alors, voyez, nous comprenons bien maintenant que lorsque deux personnes s'engagent dans le mariage en toute liberté, hein, vous engagez-vous en toute librement et sans contrainte, bien évidemment que la première compréhension est celle de s'engager sans aucune retenue, c'est-à-dire de s'engager du plus profond de son cœur, mais ce que cela doit aussi vouloir dire, il faut que les fiancés comprennent que ce que cela veut dire, c'est-à-dire que lorsqu'ils s'engagent dans leur liberté, ils s'engagent dans une liberté qui les aide à ne pas être esclaves ni de leur penchant, ni de leur esclaves de leur égoïsme, esclaves de la jalousie, esclaves du désir de posséder plutôt que de donner, car c'est un esclavage qui est peut-être plus subtil, mais qui est tout aussi dangereux que d'être lié à quelqu'un d'autre. Enfin, pour que le mariage soit un vrai mariage, il faut que la personne se donne complètement et de façon définitive. Mais il faut que sa liberté aussi soit mise en action pour que dans sa liberté, eh bien, s'exprime le refus de l'esclavage, de l'égoïsme, de la jalousie, d'une certaine façon, le refus de l'esclavage du péché. S'engager en toute liberté envers l'autre revient aussi à affirmer que l'on s'engage à respecter et à faire grandir la liberté de l'autre, c'est-à-dire l'aider à faire grandir en lui la connaissance et l'amour du Seigneur. S'engager en liberté, cela a un sens pour soi-même dans le mariage, mais cela a aussi, et c'est ce qui est très aussi extraordinaire à comprendre, c'est que en m'engageant librement, je m'engage à recevoir la liberté de l'autre, puisque chacun répond oui de la même façon, chacun s'engage en liberté, et cet engagement réciproque, eh bien, il entraîne aussi, il a comme conséquence, d'une certaine façon, d'aider l'autre à grandir dans sa propre liberté. Je veux dire par là, je pense par là, non pas faire en sorte que l'autre fasse ce qu'il veut comme il veut, non, que l'autre grandisse dans sa dimension d'enfant aimé de Dieu, dans sa dimension d'être aimé de Dieu et fait pour aimer comme Dieu, grandir dans la connaissance et l'amour du Seigneur. Et donc finalement, par le mariage, finalement, on se rend compte que le couple s'engage en s'engageant librement, eh bien le couple va s'engager à une relation qui est construite sur le don, pour pouvoir dire de l'autre, hein, que chacun puisse dire de l'autre dans le couple, que je diminue pour qu'ils grandissent. C'est ce que Jean-Baptiste dit en parlant du Christ, que je diminue pour qu'ils grandissent. Jean-Baptiste exprime là un des aspects de l'amour le plus beau et le plus pur, qui est de se donner totalement pour le bien de l'autre, pour que l'autre grandisse en liberté, pour que l'autre grandisse en richesse, être au service de l'autre, pour qu'il grandisse, qu'il croisse dans la connaissance du Seigneur. Finalement, lorsque l'on réfléchit un petit peu à tout cela, on se rend compte que finalement, la liberté, finalement, elle est le seul et le vrai chemin de l'amour. Et de l'amour vrai. On ne peut aimer si cet amour n'est pas profondément ancré dans une liberté qui est elle-même ancrée dans la vérité du Seigneur. Et vous voyez pourquoi est-ce que cette liberté est importante dans le mariage? Cette liberté, elle est importante dans le mariage parce que contrairement à l'idée qui voudrait que on puisse être libre de faire ce que l'on veut. Il ne s'agit pas non seulement d'être libre de toute relation, bien sûr, mais cette liberté, elle consiste à s'engager sans aucune retenue. Et aussi le mariage, il engage à vivre dans un amour qui sache petit à petit se libérer de toute tendance à contrôler l'autre et surtout de toute tendance à vouloir que l'autre soit parfait, pour qu'il nous donne le plus de bonheur possible. La liberté qui est ancrée dans la vérité du Seigneur, c'est une liberté qui est au contraire une liberté dans l'amour qui fait comprendre petit à petit que le mariage, eh bien, il a pour but et pour seul but, non pas d'être aimé, mais d'aimer. Le mariage a pour but de servir plutôt que d'être servi. Et si, bien évidemment, que dans le mariage, il y a une espérance du bonheur qui est une espérance du bonheur qui est belle et qui est toute humaine, eh bien, le mariage, il sert à comprendre petit à petit que la liberté, plus elle va se déployer, plus elle va ouvrir chacun dans le couple au don, au service, à aimer, à se donner, à servir. Se donner pour l'autre, s'oublier pour le bonheur de l'autre, s'oublier pour que l'autre soit heureux dans ce qu'il est, dans la vérité de son être, eh bien voilà ce qu'est le réel appel au mariage. Le mariage n'est pas uniquement la rencontre et l'occasion de vivre deux amours qui se regardent et qui restent sur deux lignes. Le mariage, il est cette expérience tout à fait extraordinaire d'une liberté puisée dans la vérité qui fait que l'on se donne, l'on diminue pour que l'autre croisse dans la vérité de son être. Et vous voyez cet appel à se donner pour l'autre, eh bien, il est tout entier contenu dans ce que l'on pourrait dire le testament du Seigneur à la veille de sa passion, ce que l'on dit être la loi parfaite, on l'appelle parfois comme cela dans l'évangile de Jean, hein, juste à la veille de sa passion. Le Seigneur nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. On ne peut donner sans être libre. Il ne peut y avoir de don sans liberté. Et la dimension parfaite de l'amour, c'est de se donner totalement pour ceux que l'on aime. Alors voilà pourquoi je trouve que le sacrement de mariage est un si beau, un si grand mystère, parce qu'il finalement, le sacrement de mariage, dans cet appel à cette liberté de l'amour, eh bien, il condense en lui, finalement, tout le mystère de l'amour du Christ. Hein, il y a un texte que je vous cite souvent, qui est le texte de Saint Paul aux Éphésiens, qui nous parle de ce mystère, ceci est un grand mystère. Eh bien, le mystère du sacrement de mariage, il consiste à ce que ce sacrement porte en lui le mystère du don de soi en toute liberté. De la même façon que le Christ s'est donné pour l'Église et que l'Église se donne au Christ, eh bien de la même façon, l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre en toute liberté dans la vérité de leur être. Et cette liberté, finalement, nous la voyons exprimée aussi dans à cet autre verset lors de la scène, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Vous voyez comme dans Saint Jean, nous avons mis, nous voyons mis en avant cette relation extraordinaire entre le Christ, la vérité qui se déploie dans la parole du Seigneur, dans le Seigneur, dans la personne du Seigneur, cette vérité se déploie dans la personne, cette vérité, elle rend libre et elle rend et elle donne la possibilité d'exercer cette liberté totalement ancrée dans la parole même du Seigneur. Alors, voilà, chacun de nous, bien évidemment, eh bien, chacun de nous est appelé de toute façon à cette croissance dans la liberté des enfants de Dieu. Bien évidemment que ce que je vous dis peut être aussi, et c'est toujours le cas finalement lorsque l'on médite les beautés de notre foi, ceci peut être dit à tout homme, toute femme, quel que soit son état de vie, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit engagé, qu'il soit prêtre. Laïc consacré, célibataire, tout homme et toute femme est appelé à entrer dans cette compréhension de sa propre vérité pour entrer dans une liberté ancrée dans la parole de Dieu qui lui fait vivre toute relation avec l'autre sous le signe de la mort, de l'amour, pardon, et de la vérité. Mais finalement, dans le mariage, eh bien, cette liberté, elle, de façon encore plus forte, en tout cas de façon vraiment évidente, eh bien, cette liberté, elle ne peut avoir comme autre nom que le nom de don, que le nom de oui, le don, de se donner, c'est finalement le synonyme parfait de la liberté dans le mariage. La liberté, elle n'a de sens que s'il est orienté totalement dans le don. Mais un don éclairé par l'esprit, bien évidemment, qui se manifeste dans le sacrement de mariage, qui est ce qui scelle cette capacité au don réciproque de l'homme et de la femme. Donc ce don, il est éclairé par l'Esprit Saint. Ce don, cette liberté ancrée dans le don, cette liberté de don, elle est vivifiée par l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le sacrement qui est totalement et absolument imbriqué dans le sacrement de mariage. L'un et l'autre ne peuvent être séparés, comme nous le dit le Christ, puisque, comme nous le dit Saint Paul, pardon, excusez-moi, à la suite du Christ, lorsqu'il lui-même compare finalement le lien entre l'homme et la femme avec le lien entre l'Église et le Christ qui nous donne l'Eucharistie. Donc ce don, il est éclairé par l'Esprit Saint dans le sacrement, il est vivifié, il est renouvelé par l'Eucharistie qui manifeste cette capacité de don et de liberté, et ce don, il est de façon totale, il est porté par l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Donc voilà pourquoi, vous voyez, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la liberté, parce que derrière ce mot qui est utilisé à tort et à travers finalement, lorsque l'on lit la parole, lorsque l'on reçoit la parole du Seigneur comme la parole vivante qu'elle est, lorsque on laisse cette parole, lorsque l'on la médite et qu'on la laisse creuser en chacun d'entre nous notre foi, eh bien, cette liberté, elle nous apparaît comme un élément essentiel de notre foi, un élément essentiel de notre relation d'amour avec les autres et notre relation d'amour avec le Seigneur lui-même. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir été avec moi pour cette méditation sur la vérité et la liberté. Et je vous dis au mois de février.